Mais tu en as déposé un projet de loi privé à une époque pas si lointaine,
en
si fait, je ne me trompe pas.
Oui, j'en ai fait deux ou trois de ça, si ma mémoire vient, mais il y en a un, entre autres, c'était le Club Appalaches.
Le Club Appalaches. Oui. Quelle évaluation tu fais de ce... Ben, on peut pas parler d'un coup d'éclat, mais de cette décision de la ville de Rivière-du-Loup d'y aller avec un projet de loi privé?
Ben, ça fait partie des éléments stratégiques qui sont importants. Est-ce que ça va être déterminant? Ça, je le sais pas. Mais il faut voir la nature du projet de loi privé. Tu sais, moi, j'ai entendu parler, comme toi, aux informations. En fait, les informations, c'est un peu toi. J'ai entendu parler du projet de loi privé. On est loin du contenu. Ça va dire quoi? Tu sais, est-ce que le gouvernement va laisser passer un projet de loi privé? Parce qu'il y a une chose que tu dois dire aussi, là. Le gouvernement actuel à Québec est un gouvernement largement majoritaire.
Ouais, ouais.
Tu sais, c'est le gouvernement qui appelle les projets de loi. Je suis pas sûr que François Legault va appeler un projet de loi privé comme ça, qu'on va se retrouver à la fin de la session, parce qu'habituellement, les projets de loi privés, on se retrouve toujours à la fin de la session, donc c'est au mois de juin que ça pourrait arriver. Un, il faut voir le contenu de ce projet de loi-là. Deux, est-ce que le gouvernement va l'appeler en chambre pour un débat en commission parlementaire? Pas certain du tout. Mais la stratégie en soi, la volonté à la base, c'est important. Regarde, le projet de loi privé que j'ai fait adopter par l'Assemblée concernant le Club Appalaches, honnêtement, la MRC ne s'en est pas prévalue. Personne ne s'en est prévalu, puis ça a donné quoi? À la fin de la journée, ça n'a pas donné grand-chose. Le projet de loi a été adopté, puis à l'époque, le ministre qui était devant moi, c'était Sylvain Gaudreau du Parti québécois. Ça s'est fait un, deux, trois, là. Ça s'est fait très rapidement. Ça s'est fait avec la bonne foi de tout le monde. Ça peut se faire aussi pour Rivière-du-Loup. T'sais, à l'époque, je me rappelle, j'avais fait des représentations pour que le projet de loi soit appelé. Là, j'ai cru comprendre que le PQ est derrière ça aussi. Alors ça, c'est pas une mauvaise chose non plus. Tu sais, ça élargit la mobilisation. Mais le projet de loi, tu l'as pas lu, puis moi non plus, il n'existe pas.
Il n'existe pas encore.
Sur le plan parlementaire, il y a d'autres outils également qui peuvent être employés. Mais c'est sûr. Mais on verra, tu sais, dans le fond, là, peut-être, Kevin, que toi et moi, puis tous les autres, qu'on a fait tout ça pour rien, que ça va être Rivière-du-Loup.
Peut-être. Faut pas l'exclure.
On le sait pas, on le sait pas. Si tel est le cas, moi, je me suis engagé à faire des félicitations au gouvernement. Je le ferai. Je me suis engagé, je vais le faire. Mais regarde, de toute façon, là, on peut s'en parler jusqu'à 11 heures. Mais regarde, on va l'avoir la réponse aujourd'hui. Il y a un élément important là-dedans, le briefing technique, là. Le briefing technique, ça se fait pour convaincre des gens, là. C'est, oui, il y a un élément d'information là-dedans, mais on va tenter à tout le moins de vous convaincre du bien fondé de la décision en vous donnant des arguments. C'est de bonne guerre, c'est légitime, c'est correct. Mais vous avez aujourd'hui une responsabilité d'avoir les deux yeux et les oreilles en opération. Il y a le non-verbal, il y a tout ça. Honnêtement, là, l'espace d'une journée, je pense que j'aimerais ça avoir ma carte de presse. Mais je ne l'ai pas. Puis de toute façon, j'ai pas mal d'autres choses à faire. Aujourd'hui, j'ai une journée devant moi, là. Écoute, mon défi, c'est de me rendre à 6 heures.
Écoute, je te laisse aller avec ta grosse journée, puis assurément qu'on aura l'occasion de... Ben, peut-être pas. Ben, écoute, peut-être demain, ça va dépendre. Jean, écoute, on va peut-être te laisser un petit place pour commenter.
Demain, je suis à Saint-Aubert. Je rencontre mes employés demain matin entre 8h et 10h. Mais en tout cas, regarde, s'il y a quelque chose...
Au pire, la semaine prochaine, ça serait le fun quand même, avant les vacances des fêtes, d'avoir un petit peu de gens d'amour qui commentent le dossier, parce qu'on l'a tellement fait ensemble.
Je croyais que demain midi, je serais en vacances, mais regarde, un dossier si important, là, on est devant ça, là. Tu m'appelleras, ça me fera plaisir.
On verra ça. Hey, merci beaucoup, Jean.
Salut.
Bye-bye. Donc, Jean d'amour qui était là. On fait la pause. Ben, pas de pause immédiatement, la chronique de Jonathan Trudeau.
Salut Jonathan.
Salut Patrick.
On est au jour 4 de la crise politique là, qui secoue le Canada depuis la démission de Chrystia Freeland. Justin Trudeau, lui, qui serait toujours en réflexion.
Oui, et là, attache ta tuque, Patrick, parce que ce matin, j'ai eu envie de te résumer la situation, le dilemme de Justin Trudeau en chanson avec ce succès souvenir de 1982 de The Clash.
Come on, let me know.
Bon matin tout le monde!
Très fort! M'attendais pas à entendre du déclage dans la chronique politique ce matin.
Écoute, je sais que ça peut être raide un peu avec la première gorgée de café puis le cadran qui sonne, puis je veux pas brusquer les gens du punk anglais des années 80 en commençant ma chronique. Écoute, je me rachète avec quelque chose d'un peu plus près de chez nous, tiens. Le pouvoir. que je puisse te respirer une dernière fois. Écoute, c'est un peu facile, évidemment, c'est pour nous faire sourire ce matin, mais ça résume bien où on en est.
Bon choix, DJ Joe.
Merci. Je me prends pour Catherine Brisson. Je me prends pour Kat ce matin. Écoute. C'est là où on en est. C'est-à-dire que Justin Trudeau est encore en train de peser, sous-peser ses options, à moins que la nuit ait porté conseil. Mais bon, dans les faits, quand on dit qu'il évalue ses options, c'est quoi? C'est s'accrocher puis tenter de survivre, ce qui est probablement l'option la moins probable, la moins évidente. Bon, s'accrocher en déclenchant une élection, précipitant l'élection, forcer ses troupes à le suivre. On pourrait proroger la session. S'en aller, nommer quelqu'un par intérim, avoir une course éclair ou encore proroger la session, dire qu'il va quitter, mais tu sais, rester en poste le temps que la course éclair se fait. Puis il y a toutes sortes de variables sur les délais dans la constitution du parti. Tout ça, je veux pas qu'on se perde là-dedans. Mais bon, essentiellement, gardons en tête que ça ressemble à ça, les choix qu'il a. Je sais que certains parlent du risque de proroger la session alors que Trump va entrer en poste le 20 janvier. On me dit, écoute, le Canada va être au cœur d'une crise interne, au cœur d'une crise internationale, et là, tu viendrais perdre ta possibilité d'agir sur le point de vue législatif. Tu sais, mettons, tu as une loi à passer rapidement pour te donner des marges de manœuvre ou quoi que ce soit, mais là, tu as prorogé le Parlement ne siège pas, ne peut pas prendre de décision. C'est vrai, mais faut pas oublier que tu as le législatif, donc le Parlement qui vote des lois, mais tu as l'exécutif, tu as le gouvernement qui est en place et qui, en principe, peut continuer de fonctionner. Tu sais, t'es en élection où le Parlement est prorogé, t'as des ministères qui sont là, t'as des ministres qui sont en place. C'est pas l'idéal, mais j'ai envie de te dire que c'est peut-être mieux ou pas pire que de déclencher une élection carrément dans un processus électoral au moment où Donald Trump va entrer en poste. D'ailleurs, quand je dis un gouvernement qui, en principe, peut fonctionner, je te soumets ceci. J'ai des gens qui font affaire avec le gouvernement, tu sais, qui ont des clients, puis qui font la courroie de transmission avec le gouvernement, etc., avec différents ministères, qui me disent que la machine est totalement paralysée en ce moment, dysfonctionnelle, un peu comme quand on anticipe un remaniement. Plus rien se passe, là. Ça stalle. On me dit que c'est comme ça en ce moment. Les ministères ne savent plus qu'est-ce qui va se passer. Donc, vraiment, on a un gouvernement qui est en pause en ce moment.
Le gouvernement est en pause. Les ministres doivent être tout aussi distraits que le premier ministre. Tu sais, c'est facile de dire ça, le rendu à troisième période. Mais M. Trudeau aurait dû partir bien avant. Tu sais, avec la menace de Donald Trump, il y a une sorte de date butoir artificielle. Faudrait que le 20 janvier, on ait un gouvernement fonctionnel au Canada. Et on regarde le calendrier, tu viens de l'évoquer, là, Jonathan. Je vois pas comment on va avoir un gouvernement fonctionnel le 20 janvier.
Écoute, il peut au moins essayer de le rendre fonctionnel dans l'immédiat, en ce sens qu'il y a des trous à patcher, là. Avec les ministres qui ont annoncé qu'ils quittaient, avec des fonctions cumulatives, ça n'a aucun sens. Tu regardes les portefeuilles, évidemment, de Dominique Leblanc, de Mme Petitpas-Taylor, de Mme Annan, ils cumulent des fonctions, ça n'a aucun sens. Donc, la rumeur d'un petit remaniement, je t'en parlais un peu plus tôt cette semaine, ce que dans le jargon, ils appellent un fixer, qui n'est pas le gros remaniement. Hier, on me disait, la seule annonce... J'essaie d'évaluer les possibilités qu'on ait un premier ministre qui prenne une décision sur son avenir cette semaine. Et on m'a dit, la seule annonce qu'il va faire cette semaine, c'est son nouveau cabinet. Et on m'a garanti que c'est pas aujourd'hui. Donc, prévoyons que demain, il va y avoir un remaniement. Mais comme me disait une autre source libérale, Patrick, tu sais, dans le domaine de écœurer ton monde, là, la session s'est terminée avant hier. Tout le monde est rentré chez eux. Pour le député qui reste à 2-3 heures d'auto d'Ottawa, c'est pas si pire. Mais dans les provinces maritimes, etc., imagines-tu, là, t'appelles un député, tu dis, ouais, ben, finalement, il y a un remaniement. Toi, tu changes de poste ou de... Fait que, ah ouais, trouve-toi un billet d'avion, on a besoin de toi demain matin. Tout est en place pour garder la grogne.
Parle-moi de François-Philippe Champagne, le dynamique député de la Mauricie au Parlement fédéral. Il s'était fait offrir, semble-t-il, le poste de ministre des Finances. Il a décliné.
Je vais jouer sur les mots parce que les mots sont importants. Puis hier, de part et d'autre, on apportait des précisions. C'est Christian Hel de Radio-Canada qui a sorti ça. Écoute, c'est assez incroyable. Ça démontre à quel point lundi, ça a été une journée totalement chaotique, improvisée, paniquée. Donc, t'as Christopher Freeland qui démissionne avec fracas. Dans les premières heures, le bureau du premier ministre regarde ce qu'on appelle l'ordre de succession. Bien des gens qui ignorent que ça existe, mais pour le poste de ministre des Finances, s'il y a une catastrophe, t'as un ministre qui directement est identifié. Oui. Et c'est un ministre, c'est le titulaire, c'est pas la personne. Et dans ce cas-ci, c'est le ministre de l'Industrie qui devient ministre des Finances. Un peu comme quand il y a un roi ou une reine qui meurt, un ordre de succession. Et donc, c'est le ministre de l'Industrie qui est le premier. Et selon Radio-Canada, puis selon les infos aussi que j'ai eues de mon côté, la discussion aurait été amorcée entre le bureau du premier ministre et François-Philippe Champagne. Dans le fond, de dire, bon, si on se fie à l'ordre de succession, c'est toi qui entrerais en poste et tout ça, puis mais on se serait pas rendu à l'offre. C'est pour ça que je te dis qu'il faut... Je joue sur les mots, mais j'accepte d'être précis, parce que semble-t-il que le premier ministre ne s'est pas rendu à offrir à François-Philippe Champagne le poste.
Mais il y a eu des discussions.
Il y a eu des discussions, et rapidement, François-Philippe Champagne a dit...
Si M. Champagne avait dit, hey, Monsieur le Premier ministre, j'ose pas penser qu'il l'appelle Justin, je veux vraiment être ministre des Finances, je pense qu'on y aurait donné le portefeuille.
Mais tu vois, je le précise parce que je trouve que ça parle encore plus que, essentiellement, il est au Premier ministre. Non, va pas là. Va pas là, perds pas ton temps. Puis ce que je trouve drôle, c'est qu'on prétexte que le ministre a dit qu'il avait encore beaucoup de travail à accomplir dans son ministère. Ce à quoi je réponds le plus poliment du monde, bullshit. François-Philippe Champagne est un ministre intelligent. Puis écoute, il veut pas se coller davantage. Tenir le gouvernail du Titanic à quatre mains, là, avec les mains de Justin Trudeau pour frapper l'iceberg de plein fouet. Puis on peut le comprendre. Ceci dit, je pose une question. Je l'ai posée hier, pas eu de réponse claire. Qui a coulé ça? Qui a coulé cette information-là? Oh. Est-ce que ça vient de l'entourage du premier ministre qui veut exposer ceux qui manquent de solidarité?
C'est intéressant, ça.
Qui a intérêt
à ce que ça sorte?
Le bureau du premier ministre qui voudrait exposer ceux qui manquent de solidarité ou François-Philippe Champagne pour continuer à prendre ses distances, à se positionner? Pas eu la réponse hier, mais moi, j'ai mes doutes.
Hey, écoute, là, à mesure que le bateau coule, des fuites, sans mauvais jeu de mots,
voilà.
Tu vas en avoir beaucoup. Parlant de se positionner, Mme Freeland, qui a démissionné, qui a dit « Pas vrai que je vais faire ma mise à jour budgétaire, Monsieur le Premier ministre, puis qu'après ça, le lendemain, vous allez me congédier », elle aussi, elle se positionne. Elle aussi a des ambitions.
Absolument. Puis je vais rapidement parce que je veux qu'on revienne sur l'entrevue avec Benoît Charrette pour finir la chronique. Mais effectivement, elle se positionne et très favorablement. Hein. Elle a été ovationnée au fameux caucus de lundi soir. On me disait qu'elle a pris des tonnes de selfies au party avec les employés libéraux dont je te parlais hier. Ceci dit, je trouve qu'il y a une chose qu'on oublie trop de mentionner, de souligner. Puis je l'avais fait quand je suis intervenu dans la chronique de Luc Ferrandez dans les premières minutes où la fameuse lettre est sortie. C'est-à-dire que Christopher Freeland, dans sa lettre, parle des astuces politiques coûteuses, là, de l'importance de se garder des marges de manœuvre. Puis là, c'est ce qu'on retient, hein, celle qui se tient debout devant Justin Trudeau. Mais on dirait qu'on semble oublier que la mise à jour économique, avec le déficit de 62 milliards, soit 22 milliards de plus que ce qui était prévu, le matin même, là, ça portait la signature de Christopher Freeland. Ouais. Les couleuvres, elle avait accepté de les avaler. Ce qui est venu changer la donne, c'est le fait qu'on lui dise « Bon, ben tu vas présenter ça, puis après ça, tu vas perdre ta job. » C'est ça qui l'a amené à démissionner. Dans sa lettre, elle dit « Non, c'est important, là, les États-Unis, puis santé financière. » Ben oui, mais elle faisait sienne la mise à jour économique. Elle s'apprêtait à aller la déposer. Donc, je trouve qu'elle a la partie un peu facile là-dessus. Je dis pas qu'elle avait pas raison de démissionner. Mais il faut pas oublier que dans une éventuelle course à la chefferie ou dans une éventualité où Christopher Freeland remplacerait Justin Trudeau, le bilan financier du gouvernement, il est 100% le sien, là, comme ministre des Finances.
Tous les ministres de Justin Trudeau, pour les 10-15 prochaines années, vont se faire remettre sur le nez ce déficit-là, Jonathan.
Mais encore plus quand il était ministre des Finances.
Ben oui, absolument.
C'est coche de plus.
Parfait. Parlons, tu veux revenir là, sur cette entrevue que j'ai réalisée hier avec Benoît Charrette, le ministre de l'Environnement du Québec. J'ai relayé ta suggestion.
Oui.
Quand tu dis que le fonds vert, l'argent qui est dans le fonds vert, aurait pu servir à renflouer le programme Rouler Vert, le programme de subvention pour l'achat de véhicules électriques. Il m'a dit que c'était impossible parce que l'argent était alloué.
Écoute, j'ai envie qu'on l'écoute rapidement. On va entendre la réponse de Benoît Charrette, bien sûr.
En fait, non, c'est un fonds qui est équilibré là depuis quelques années. L'ancien gouvernement libéral avait accumulé des surplus, mais depuis qu'on a mis en place le plan là pour une économie verte, c'est un fonds qui est équilibré année après année. Et au contraire, on se dirige vers un déficit cette année. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas que rouler vert. On parle beaucoup de rouler vert là depuis 48 heures. Mais éco-camionnage et aussi sous le coup là, d'une suspension temporaire, oui. Renault Climat. Donc, il n'y a pas de surplus au niveau du fonds pour une économie verte et au niveau des changements climatiques là depuis quelques années maintenant.
Réaction, écoute, M. Kronka?
Ben, tu comprends que la dernière chose que je veux, c'est que mon animateur ait l'air fou à cause d'un propos que j'ai tenu, là. Parce que, non, mais c'est parce que c'est vrai. T'écoutes Benoît Charrette, puis il dit, essentiellement, il dit, non, mais vous êtes totalement dans le champ, parlez-moi pas de surplus, on est déficitaire. J'ai ressorti un article d'avril 2024, on s'entend que ça fait pas longtemps, qui parlait du Fonds d'électrification de changement climatique, c'est le nouveau nom du Fonds vert, qui était rendu un surplus, un coussin de 1,7 milliard de dollars. Et là, il y a des gens qui s'insurgeaient du fait qu'on n'utilisait pas cet argent-là, et qu'au contraire, on s'en sert pour le faire fructifier.